Elle est youtubeuse depuis 3 ans à peine, mais en ce court laps de temps, sa belle énergie, son dynamisme et sa passion pour les produits de beauté, le plein air et le sport ont conquis le cœur de plus de 60 000 fans. Sympathique point de conversation avec Éliane Duquet, Élie pour ses fans. Bon podcast!
Oui, allô?
Salut Élie, c'est Normand.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, merci.
Toi, t'étais déjà sur YouTube, je présume, avant même que le slingshot...
M'approche, ouais, ben en fait, moi, ça fait 3 ans là, que je suis sur YouTube, puis ça a pris... Ben en fait, j'étais à mon compte toute seule pendant une année, donc ils m'ont comme recruté après la première année, puis là, ça fait 2 ans que je suis avec.
Ah, OK. Puis qu'est-ce qui t'avait amené, toi, à pitcher là-dedans sur YouTube?
Ben en fait, je pense que c'est plusieurs choses, mais c'est beaucoup un manque de passion. Là, j'étudiais dans un domaine qui ne m'intéressait pas vraiment. J'étais un peu prise dans une roue que je me disais, je vais terminer mes études, même si je sais que je ne veux pas devenir avocate. Je savais pas quoi faire d'autre, donc j'avais comme ce manque-là de hobby, de passion dans ma vie. Puis moi, je consommais déjà beaucoup de vidéos sur YouTube, plus des Américaines là, qui faisaient des vidéos de beauté, lifestyle et tout ça.
Ouais.
Puis à un moment donné, je me suis juste dit, ah, ben, pourquoi pas prendre ce temps-là que je perds, entre guillemets, à m'écouter autant pour moi-même en créer. J'ai comme emprunté la caméra de mon père une fin de semaine, j'ai filmé ça toute seule dans ma chambre, puis j'ai décidé de commencer à publier des vidéos comme ça, juste pour me créer un petit passe-temps à côté de mes études qui me déprimaient beaucoup.
OK. Là, t'as-tu fini tes études? T'es-tu toujours déprimée?
Non, mais en fait, moi, j'ai terminé mon bac en droit en 2013, puis j'ai commencé le barreau après, puis je faisais soit en 4 ou en 8 mois, puis c'est de là, je savais déjà en partant que, comme je dis, que je voulais pas faire ça, donc quand YouTube a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, ça m'a comme donné le temps de respirer puis réfléchir à mes affaires, donc j'ai terminé mon bac, mais j'ai pas complété le barreau par la suite, puis là, ben, je suis revenue à Montréal, j'ai continué de faire mes projets sur YouTube, j'ai fait d'autres études au HEC par la suite, mais finalement, là, pour le moment, c'est principalement mes occupations sur Internet qui me font rire.
Puis t'as tout appris ça sur le tas, je présume, si t'as emprunté la caméra de papa?
Ben oui, absolument. La première fois que j'ai filmé quelque chose, je l'ai filmé en entier. Après ça, je savais aucunement comment faire du montage ou comment faire quoi que ce soit. Puis là, je regardais des vidéos YouTube sur comment faire des vidéos YouTube. Des espèces de tutoriels comme par où commencer. Là.
Ouais.
Fait que ça a pris complètement 2 semaines, je pense, avant de publier ma première vidéo parce que je connaissais absolument rien. Puis là, de fil en aiguille, tu deviens un petit peu meilleur à chaque fois. Mais c'est de regarder même tes premières vidéos, c'est toujours un peu gênant parce que tu dis, oh, bah, ouais, on partait de loin, là, mettons.
Ah, ouais. T'es as-tu enlevé les premières vidéos? Ils sont encore là?
Non, ils sont encore là. Mais tu sais, c'est ça. En même temps, il y en a aussi des gens qui sont sur YouTube depuis vraiment plus longtemps que moi. Là. J'imagine que c'est un peu plus gênant aussi de se revoir parce que c'était des vidéos filmées avec des caméras de Mac, d'ordi, puis vraiment pas de montage. Fait que tu sais, moi, quand même, ça fait juste 3 ans. C'est sûr que je les regarde puis je trouve ça un peu gênant, mais c'est pas si pire que ça, là, maintenant. C'est quand même intéressant, juste même pour moi, de les garder là pour pouvoir ramener look back et réaliser le progrès qui a été fait parce que on commence tout quelque part à un moment donné. Puis c'est ça, souvent, tu bloques les gens, j'ai l'impression de commencer parce que c'est pas trop par où prendre le chemin.
Ça a-tu changé quelque chose dans ta vie, dans ta façon de faire, cette association-là avec la gang Slingshot?
Oui, ça a beaucoup changé ben tout ça, là, parce que c'est eux qui négociaient. Ça fait comme une espèce d'entre-deux entre toi et tu n'as pas besoin d'aller directement négocier des tarifs. C'est vraiment l'intermédiaire. Là. Ça aide beaucoup à se concentrer sur les autres choses puis pas juste sur le côté business, mettons, de ta chaîne.
Mm-hmm. Puis en termes de contenu, ça a-tu influencé ta façon de faire puis la façon que tu traites tes sujets?
Ah, pas du tout. Ça, par exemple, ça, c'est quand même quelque chose d'important pour moi quand on s'est assis à la première fois pour discuter de ce que ça impliquait d'être dans une agence. Et en aucun cas, il allait nous restreindre dans notre contenu ou nous censurer d'une quelque façon. Il n'y a rien qui a changé. En fait, j'ai continué de faire exactement ce que je voulais. Puis ce que je trouvais le fun, c'est d'après ça, d'ajuster le genre de contrat aussi que je voulais faire plus ma chaîne évoluait parce que ça a quand même changé depuis le début. Tu sais, au départ, j'étais un petit peu plus dans la beauté. C'est des contrats comme ça qu'elle allait me trouver plus souvent parce que c'était ça qui m'allumait à ce moment-là. Puis là, je me suis orientée vraiment plus par exemple, le plein air, le sport, les choses comme ça. Puis là, mes contrats ont beaucoup changé dans l'année suivante parce qu'ils respectent quand même le contenu que j'ai le goût de créer dans le moment présent.
Puis comment ça se passe au niveau de tes de tes followers, ce shift-là, ils font-tu comme, ben là, Ellie, t'es pas à la même place que j'étais, t'as-tu senti comme un abandon d'une gang, puis l'arrivée d'une autre gang là-dedans?
Pas vraiment, non. Ouais. Et, je pense que j'ai toujours décidé quand même de rester assez fidèle à moi-même, de pas trop faire des vidéos pour pogner, là, entre guillemets, là, pour que mes chiffres explosent et tout ça. Fait que ça a toujours été très progressif, très... tu voudrais dire quasiment très lent, là. J'ai eu une projection tout le temps, mais jamais. Je me suis jamais réveillée un matin avec 50 000 abonnés plus en deux jours. Là. Mm-hmm. Fait que les gens qui me suivent sont. Je pense qu'ils sont souvent là depuis le début, puis ils ont pas vu, je pense, mon contenu changer plus qu'il faut. Là.
OK. En tout cas, ils ont pas senti le changement d'attitude des lits.
Non, je pense vraiment pas. Là, en tout cas, je me suis jamais fait dire. Fait que ça m'étonnerait beaucoup.
Dans le domaine des communications, on appelle ça du marketing d'influence. Donc, tu es une influenceuse, puis tes followers, c'est des influencés?
en fait, moi, il y a quelqu'un en fait, qui a fait une vidéo là-dessus, Émile Roy, récemment, sur justement le terme influenceur, qui est de plus en plus utilisé là, pour décrire qu'est-ce qu'on fait. Puis, ouais. J'ai trouvé ça quand même pertinent qu'est-ce qu'il disait, parce que lui, il voit plus ça comme le fait d'être influenceur, c'est la conséquence de. D'une autre chose qu'on va faire à la base. Donc, par exemple, d'être vidéaste, d'être photographe, d'être, va faire en sorte que tu vas finir par influencer les gens par ton travail. Donc, tu sais, moi, je considère que je suis une influenceur, mais ça vient avec le fait que je crée du contenu, que ce soit photo ou vidéo, puis de là, les gens ont envie d'écouter ce que j'ai à dire, puis vont peut-être par la suite être influencés par mes décisions. Mais, tu sais, je pense pas que le core de mon travail, c'est juste d'influencer les gens, que coûte, tu sais, je vais juste vivre ma vie, créer du contenu qui m'intéresse, puis de là, les gens vont décider ou non d'être influencés par ça.
Toi, j'imagine que c'est super clair dans tes documents. Tu te précises quand il y a du sponsorship?
Ah, ben oui. Ben ça, c'est une des valeurs au Slingshot qui est très, très présente là, depuis le début. Les règles là-dessus sont pas encore béton. Là. Je dirais que c'est toujours en changement, puis encore une fois, c'est pas tout le monde qui utilise les mêmes hashtags, mm-hmm. les mêmes mentions, que c'est contenu payé ou pas, mais au Slingshot, c'est assez, je veux pas dire strict, là, mais c'est comme impératif depuis le début qu'on applique les règles à la lettre. Là. Mm-hmm. Fait que c'est, ça, en même temps, dans ma tête, c'est correct aussi parce que il y a pas d'histoire d'essayer de borner les gens ou d'utiliser un chemin plus sinueux pour pas trop que ça paraisse. Là. C'est dit quand c'est fait, puis si c'est bien fait, moi, j'ai pas de honte à ça, puis je me sens pas mal d'utiliser le hashtag ad quand c'est quelque chose qui me fait triper de toute façon. Mm-hmm. C'est, j'espère juste que les gens vont être contents pour moi de pouvoir gagner ma vie de cette façon-là. Pour que ça se ressemble que c'est honnête.
Est-ce que c'est le cas? T'as-tu senti du feedback en ce sens-là de ta gang?
Non, mais honnêtement, moi, je me trouve quand même chanteuse. Puis, tu sais, c'est peut-être pas juste de la chance non plus. Je me prends un peu le mérite, là, mais je me fais souvent dire que les gens sont comme surpris à quel point, des fois, les contenus publicités que je vais faire... c'était pas ressentir comme de la publicité. Tu sais, je pense que je suis quand même très picky aussi dans ce que je choisis de faire. J'en refuse beaucoup, puis ceux que j'accepte, j'ai une facilité de les faire passer comme si c'était mon contenu habituel parce que j'en aurais parlé un peu de toute façon. Fait que les gens souvent même vont me faire le commentaire de « Ah, tu sais, c'est le fun, c'est une collaboration, mais c'est hyper organique, c'est naturel. » On pourrait même pas dire que c'en est une, mettons. Là. Fait que ça, moi, ça me fait vraiment, je trouve ça toujours un beau compliment parce que ça reste un défi en soi là, de s'associer avec des marques, mais de pas avoir l'impression de pousser ça dans la gorge du monde puis de juste les voir comme des potentiels acheteurs de ce produit-là. Là. J'aime pas ça avoir ce rôle-là, fait que j'essaie de le faire du mieux que je peux. Là.
Mm-hmm. Au hasard, dans les 3 minutes que j'avais avant que je t'appelle, j'ai fouillé un peu sur ton channel, puis je suis tombé sur une vidéo qui était comme probablement un de tes premiers, si tu me dis que tu as commencé en 2015, où là, tu avais tes produits terminés, tes tops et tes flops. Tu fais-tu encore des flops, même si maintenant tu fais du contenu sponsorisé?
Ah, ben oui, ça arrive souvent. Là, je fais moins justement de vidéos de beauté, mais... Faut que ça reste véridique ou comme crédible quand tu présentes des choses que t'aimes beaucoup. Tu peux pas juste présenter des choses que t'aimes beaucoup tout le temps parce qu'à un moment donné, ça peut être pas réaliste que t'aimes tout ce que tu reçois. Puis, tu sais, ça arrive des fois que même je vais recevoir des choses, des produits PR qui sont pas nécessairement des collaborations, mais que j'aime juste pas le produit, ben, soit j'en parle juste jamais ou que je vais même le mentionner ou des choses que j'achète moi-même. Je suis comme, hey, pour vrai, guys, si vous pensez acheter ça, achetez-le pas parce que ça. C'est vraiment mauvais. Mais je trouve que pour moi, ça montre une espèce ben, ça rend ton contenu plus crédible. Le jour où tu vas décider de faire quelque chose de sponsorisé, ben, les gens vont pas avoir le doute de dire ben, juste ça parce qu'il y a de l'argent en retour.
Ça t'es-tu déjà arrivé de, dans le cadre d'un contrat d'avoir un produit, tu l'essaies, puis même si tu n'avais pas de préjugés contre, tu l'essaies, puis tu te rends compte que j'aime pas.
Je sais pas comment tout le monde travaille, mais moi, à chaque fois qu'une marque m'approche pour faire que ce soit des crèmes pour le visage, n'importe quel produit, je vais demander de le recevoir en amont avant, puis d'en faire le test. Dépendamment, ça prend combien de temps à tester. Tester du maquillage en 3-4 fois, je le sais si j'aime ou j'aime pas. Là. Puis après ça, de décider si je m'embarque ou pas. T'sais, jamais je vais faire, je vais signer un contrat, dire OK, oui, je m'associe avec telle marque de shampoing sans les avoir essayés à la base, parce que là, après ça, t'es pogné, puis justement, si t'es aimes toi, t'as comme pas vraiment le choix de dire que t'es aimes, puis. Moi, ça me fait angoisser, ben, je serais pas capable.
Qu'est-ce qui t'a fait shifter de beauté vers le plein air?
Ben, je dirais, là, c'est assez. Mon channel est très, très varié. Là. Je suis très polyvalente, j'ai l'impression, dans mon contenu. Puis, je dirais pas que c'est parce que c'est un manque d'intérêt, le maquillage ou quoi que ce soit, mais je change beaucoup d'intérêt dans ma vie. Puis, tu sais, j'ai des passes comme ça, là, qu'au départ, j'étais plus dans le maquillage. À un moment donné, je me suis un peu tannée de ça. J'ai vu aussi qu'il y en a des YouTubers qui ont vraiment un créneau très précis sur la beauté, puis je les vois comme des références dans ce domaine-là. Puis, des fois, moi, je me dis, ah, tu sais, moi, je suis pas tant une référence dans ce domaine-là non plus. Fait que, pas de laisser la place aux pros, là, mais tu sais, on voit, j'aime ça vaguer un peu dans essayer des nouvelles choses, puis pas me contraindre à un seul sujet, une seule. J'aime ça varier, puis là, tu sais, si ça me tente de parler de beauté, je vais en reparler, mais les gens s'attendent jamais à juste une source de contenu sur ma chaîne.
Fait que dans 10 ans, tu vas regarder tes 10 années de production, puis tu vas être à même de voir, OK, ça c'était mon année pâté chinois, ça c'était
mon année. Quasiment, j'ai l'impression, je pense que je vais voir quasiment comment mon cerveau fonctionnait, parce que je fais des switches d'intérêt assez flagrants. Là, je suis assez intense comme personne, puis impulsive, fait que tu sais, je réfléchis pas vraiment à me dire, OK, cette année, comment je planifie mon année, est-ce que j'ai goût de parler de telle chose, je parle de telle chose, puis. Ça va comme ça. Fait que les gens sont toujours un peu comme une boîte à surprises.
T'as-tu l'impression, toutefois, avec cette association-là, où là, ça devient un peu plus ben, professionnel, disons-le, t'as-tu l'impression qu'à un moment donné, ce que j'entends, c'est encore une passion, c'est encore un passe-temps, ça devient de plus en plus aussi un moyen de rentrer des sous. Ça, il va-tu avoir un mindset chez Ellie où à un moment donné, elle va justement commencer à planifier sa suite en se disant « OK, je sens que il y a un intérêt de plus en plus grand sur whatever sujet, fait que je devrais commencer à travailler ça. »
Ben, je pense pas parce que j'ai bien de la misère à j'ai déjà pensé, je sais, on est tous conscients de ce qui marche sur YouTube. Il y a des tendances, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des modes aussi, puis tu le sais tout de suite que fais tel genre de vidéo, tu vas avoir tel nombre de vues, puis ça va pogner, tu sais. Mais quand tu le files pas non plus, moi, j'ai bien de la misère à me forcer dans la vie à faire des choses que j'aime pas, là. Je suis pas productive, je suis pas bonne, je suis pas à mon meilleur quand je fais ça. Fait que, tu sais, même si je le sais concrètement que ce serait plus logique d'aller vers tel genre de vidéo, parce que je vais sûrement avoir plus de contrôle aussi, ben, si je le file pas, je le file pas. Puis, tu sais, si j'avais fonctionné comme ça, j'aurais continué à faire de la beauté parce qu'on s'entend que c'est ces gros business-là qui ont souvent énormément de sous à investir dans de la pub.
Ben ouais.
En m'éloignant de ça, c'est sûr que j'ai diminué aussi mon nombre de contrats que je recevais ou d'offres que je recevais parce que c'est beaucoup plus rare là, qu'une station de ski débloque du budget pour faire de la publicité, mais quand ça arrive, ben, ils vont penser à moi parce que moi, je peux me permettre de faire ce contenu-là sur ma chaîne parce que je fais un peu de tout.
J'ai l'impression que c'est un point commun chez les YouTubers versus, vous êtes quand même des médias, mais étant donné que la plupart du temps, c'est comme en solo ou pas loin, la distance entre la marque et la personne n'est pas très grande, alors que, je sais pas, moi, tu travailles dans un média, chez Radio-Canada, ou chez Véro, ou chez Ricardo, c'est une grosse équipe, fait que là, nécessairement, t'as pas le choix, tu commences à y aller avec des compromis, des discussions, des fois, t'as la force des ventes qui vont te pousser pour accepter de faire telle affaire. Ça se passe pas de même. T'as-tu ça, toutefois, de slingshot, des fois, là, tu sais, qui dit « Hey, la belle Ellie, on sait que ça te tente à moins le maquillage, mais là, il y a un 5000 pièces de rouge à lèvres, ça te tente-tu? » Il pousse-tu
dans ben, moi, c'est sûr, moi, je leur demande qu'ils me proposent tout ce que je reçois pour pouvoir, après ça, choisir puis faire le tri là-dedans. Fait que oui, on me le proposait, mais jamais en disant « Hey, t'es une belle passe de cash à faire ici, tu devrais, tu sais, l'accepter. » Mais comme tu dis, moi, j'ai l'impression que c'est absolument vrai que youtubeurs ou les créateurs de contenu qui sont seuls, puis que leur brand, c'est leur image personnelle, là, c'est vraiment eux, ils sont pas cachés derrière un jeu d'acteur ou quoi que ce soit, ça devient vraiment plus complexe d'accepter des choses qui te ressemblent pas parce que ça se ressent. C'est les gens qui t'écoutent au quotidien ou peu importe, ils savent un peu tes intérêts, ils finissent par te connaître comme tu disais au départ, comme si c'est vraiment tes amis. Mm. Fait que c'est plus dur un peu de leur faire avaler quoi que ce soit, des choses qui ne fitent pas avec ce que tu leur parles souvent parce qu'ils vont le ressentir. T'sais, si t'es Angelina Jolie et tu décides de t'associer avec Herbalessence parce que ça te fait des cheveux de soie, puis tu fais des pubs à la télé qui sont scriptés, qui sont aucunement personnels. Mm-hmm. Les gens, ça va passer dans le beurre parce qu'ils savent bien qu'ils la connaissent pas personnellement non plus. Là, c'est une actrice, mettons. Fait qu'ils, ouais. Ils sentent pas cette proximité-là, j'ai l'impression, avec la personne.
Pas du tout. Papa, es-tu content d'avoir prêté la caméra ou il savait pas tu l'as volé en cachette?
Pour vrai, je pense que oui. Au départ, c'était un peu... c'était un peu spécial pour même mes parents de comprendre ce que je faisais parce qu'ils connaissaient 0-0 de... cet univers-là, tu sais, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont bien chers, là, je crois, c'est ce qu'ils disent. Je pense qu'il est bien content de m'avoir traité sa caméra.
Il suit-tu ton channel?
Oui, mes deux parents suivent pas mal ça.
Ils commandent-tu? Ils t'appellent-tu après? Eliane, faut que je te parle. Ton lit était pas fait.
Je vais toujours avoir un petit commentaire après, là, puis là, ça prend jamais bien plus que 24 heures que la vidéo a été visionnée.
Ou sinon, c'est, ils t'appellent. Qu'est-ce qui se passe, là? On n'a pas vu tes vidéos. T'es-tu correct? Rappelle ta mère. Bye.
Exact.
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!